Il y a eu des contacts par le passé et la chronique de ces 20 ou 30 dernières années indique qu'il y a eu un certain nombre de contacts, y compris à haut niveau, entre le Saint-Siège et la Chine, mais des contacts qui n'ont jamais pu aboutir et cette chronique a plutôt connu plus de bas que de haut.
Est-ce que depuis 2012-2013 et le changement de chef d'État à la tête de la République populaire de Chine, on a une inflexion positive ou pas sur la question de la liberté religieuse?
Il est encore très difficile de le dire. Il semble pas dans la mesure où il y a un élément conjoncturel immédiat. C'est le raidissement de la situation avec les musulmans pour dans le Xinjiang, c'est la difficulté de la gestion du dossier tibétain. Et donc face à ces deux éléments, il y a peu de possibilités de voir la politique religieuse véritablement infléchie de manière générale. Maintenant, il y a néanmoins une réflexion à plus haut niveau au sein des instances chinoises sur la place des religions et le rôle que l'État, ou en tout cas le politique vis-à-vis du pouvoir religieux, doit avoir. Donc il y a une réflexion de fond qui se mène actuellement en Chine, mais qui n'aboutit pas du fait de ces difficultés conjoncturelles liées notamment à la question du Xinjiang, donc de l'extrême-ouest chinois et du Tibet.
On sait que le nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, est un très bon connaisseur des pays d'Asie, du Vietnam et de la Chine aussi. Est-ce que vous savez si dans les autorités chinoises, des gens le connaissent bien ?
Oui, les gens le connaissent bien. Encore une fois, au plus haut niveau, il y a eu des contacts, donc les gens se connaissent bien. Personnellement, non, ils ne se connaissent pas si bien que ça, mais ils savent quelles sont les positions des uns et des autres. La Chine sait que le Vatican, effectivement, a une demande extrêmement forte en matière de liberté religieuse, en matière de liberté d'agir pour l'Église qui est en Chine. En face, le Vatican sait bien qu'effectivement, la question de la nomination des évêques est une question difficile, sensible, mais que l'on peut négocier, de même que la question de Taïwan, de la représentation diplomatique qui est à Taipei, et que le Saint-Siège a déjà, à plusieurs reprise annoncée qu'elle pouvait être transférée du jour au lendemain, c'est l'expression qui avait été utilisée, à Pékin. Chacune des deux parties sait où l'autre veut aller ou ne peut pas aller, mais il n'y a pas encore véritablement de volonté politique d'avancer et cela se jouera sans doute au plus haut niveau du bureau politique du Parti communiste chinois.
Vous avez parlé de ce thème très délicat de la nomination des évêques. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'évêques sont en communion avec Rome et quelle est leur répartition territoriale? Est-ce qu'on en a une idée précise?
Non, la statistique est un peu difficile à établir. Il y a un grand nombre de sièges qui sont vacants aujourd'hui. Il y a des cas très délicats, très difficiles, douloureux même. Je pense bien sûr à l'évêque de Shanghai, l'évêque officiel de Shanghai, qui a été nommé en communion avec le Saint-Père, en accord avec le pape, et qui est empêché d'exercer depuis plus d'un an. Il est dans un état de quasi-résidence surveillée. Donc il y a de véritables difficultés pour le pouvoir chinois à concevoir effectivement une église qui soit pleinement autonome, qui soit pleinement libre de ses mouvements. Et c'est la question de la liberté religieuse qui, bien sûr, n'est pas tranchée et qui appelle de la part du Saint-Siège une volonté de voir effectivement cette politique bouger, sinon évoluer en Chine.
Est-ce que, à titre personnel, le pape François a suscité une curiosité, une sympathie en Chine parmi la population et parmi les autorités?
Il est un peu difficile de le dire parce que les médias officiels, bien sûr, ne participent pas de la popularité du pape François à travers le monde. Sur les réseaux Internet, en revanche, cela circule bien. Les catholiques sont tout à fait conscients de la nouveauté que représente ce pape, du dynamisme qu'il introduit. Y aurait-il un facteur personnel? On peut le penser, on peut l'espérer, puisque le pape viendra en août, au mois d'août prochain, en Corée du Sud, donc aux portes de la Chine. Il vient pour les journées asiatiques de la jeunesse. Donc on peut espérer qu'un grand nombre de jeunes catholiques de Hong Kong, de Taïwan, mais également peut-être de Chine populaire, seront en Corée du Sud et rapporteront ensuite, de retour chez eux, ce dynamisme qu'insuffle le pape François à l'ensemble de l'Église.
Alors justement, vous avez évoqué le cas de Hong Kong. Est-ce que, en vertu du principe un pays, deux systèmes, est-ce que la liberté religieuse aujourd'hui à Hong Kong, elle est la même qu'à l'époque britannique?
Oui, la liberté religieuse reste pleine et entière à Hong Kong. Il y a une véritable liberté d'agir pour les églises et elles ne s'en privent pas d'utiliser cette liberté dans la mesure où on les entend, on entend la voix de l'évêque de Hong Kong sur la scène locale. Néanmoins, il y a un petit bémol dans la mesure où il y a une certaine érosion, non pas de la liberté religieuse, mais par une volonté de prise de contrôle du pouvoir en place sur un certain nombre de domaines. Il y a des tensions qui se font jour et la société civile réagit très vigoureusement. Je pense en particulier à la question de l'enseignement, On le sait, l'Église catholique, les églises chrétiennes de manière générale sont très présentes dans le domaine de l'enseignement à Hong Kong. Elles contrôlent, elles gèrent, elles animent environ un tiers des écoles. Et il y a eu ces derniers temps des tentatives de réformer les programmes pour les faire évoluer dans un sens plus favorable aux intérêts de Pékin, des programmes scolaires. Et là, la réaction des églises, mais également de la société civile, a été très forte. Il y a donc une situation très différente entre ce qui se passe à Hong Kong et ce qu'il est possible de faire à Hong Kong et ce qui n'est pas encore possible de faire en Chine continentale, où l'expression des libertés est beaucoup, beaucoup plus contenue.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer justement que Hong Kong soit une sorte de laboratoire de ce que pourrait être la Chine de l'avenir ?
On peut l'espérer, on peut prier pour cela. On voit plutôt actuellement un processus d'absorption progressive de Hong Kong par le continent, ce qui est naturel et normal étant donné les masses en matière de population, en matière de richesse économique qui sont en jeu. Mais néanmoins, effectivement, on peut aussi penser qu'en retour, la société civile ou les aspirations de la société civile qui se font jour à Hong Kong, qui sont très réelles à Hong Kong, pourront déborder, pourront faire tache d'huile sur l'ensemble du reste de la Chine. Mais là, c'est du domaine encore de l'espérance.
Est-ce qu'une étape du pape François à Hong Kong sur le chemin de la Corée du Sud fait partie d'un scénario de science-fiction ou est-ce que ça serait envisageable ?
Non, c'est une rumeur qui court, effectivement. Il pourrait faire escale. Cela me semble un petit peu improbable à titre personnel. Cela nécessiterait bien sûr que Pékin donne son accord, qu'invite même le Saint-Père. Il me semble au jour d'aujourd'hui que nous ne sommes pas du tout dans cette configuration de confiance ou de relation à ce point étroite que l'on puisse envisager une telle visite. Mais j'espère me tromper et que cette visite puisse avoir lieu.